Hébreu. Hébreu 13. Hébreu 13. C'est le dernier. Hébreu 13. Et à partir du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie. Imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Père, nous te prions pour que ta parole éclaire nos esprits, éclaire notre intelligence, éclaire nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, nous soumettre à cette parole et la mettre en pratique. Parce que Seigneur, tu as dit, celui qui pratique la parole sera mon disciple et qui m'aimera. Alors Seigneur, donne-nous cette clarté ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors quels sont ceux qui n'ont aucun problème avec ce texte, qui le comprennent parfaitement et limpidement? Levez la main. Vous me rassurez, parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là avant de préparer ce message. Donc, je me sens solidaire avec vous. Ce qui fait que je ne vais pas faire du staccanovisme, c'est-à-dire essayer de terminer tout ce matin. Donc, je m'arrêterai quand il faudra, pour que les choses soient claires et que, quitte à revenir dimanche prochain sur le message, et pas être trop long ce matin. Voilà, donc je vous le dis tout de suite, comme ça, à un moment donné, j'arrêterai. Ce ne sera pas un message qui sera bouclé. Alors tout d'abord, un petit éclairage sur l'épître aux Hébreux. Vous savez que chaque épître, ça veut dire quoi? Lettre, c'est une lettre. Donc il y a les évangiles, il y en a combien? 4 évangiles. Pour le même récit, hein, ce sont 4 aspects différents de la vie et de l'enseignement de Jésus. Et ensuite, après, les épîtres. Alors, et les actes des apôtres. Hein. On dit que c'est le 5e évangile. Bon, c'est dans le sens où c'est un fait historique. Enfin, on essaie de ramener l'histoire de l'Église primitive. Et ensuite, après, les épîtres. Et chaque épître a une spécificité. Alors, certaines épîtres sont adressées à des églises. L'épître à Colosse, à Éphèse. D'autres sont adressées à des personnes, à Philémon. Donc c'était une personne, et des épîtres générales qui tournaient dans les églises. Et, des épîtres générales qui faisaient le tour, donc c'était général. Ça ne veut pas dire que l'église aux Éphésiens ne s'adressait pas à tout le monde, mais le contexte d'Éphèse permet de mieux comprendre l'épître. C'est des principes de lecture biblique, hein, où il faut toujours utiliser le contexte pour comprendre certaines épîtres. Par contre, il y a des épîtres générales. Alors ça, c'est une épître générale, mais en même temps, elle est particulière parce qu'elle a été écrite aux Hébreux. Traduction aux Juifs chrétiens. Aux Juifs qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens, cette épître est particulièrement pour eux. Alors, elle est aussi pour nous, et on va voir ce matin qu'elle éclaire la manière de lire l'Ancien Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, il est un petit peu déjà difficile parce que c'est une autre culture, hein, c'est les cultures hébraïques, qu'on n'a pas forcément, enfin on n'a pas, une manière de voir des choses différentes, etc., une manière prophétique aussi de prophétiser ce qui va arriver, enfin bref, c'est pas évident. À l'Ancien Testament. Ce qui fait d'ailleurs les catholiques, dont moi j'étais, ils ne lisent pas l'Ancien Testament. L'Église prend des relevés dans les psaumes, machin, etc., pour que ce soit compréhensible, et le reste, c'est les prêtres, les théologiens qui gardent ça pour eux, parce qu'ils disent que c'est trop compliqué pour le peuple. Ce qui fait que les catholiques ne connaissent pas vraiment l'Ancien Testament, à part, bien sûr, les psaumes qui sont accessibles à tout le monde, et encore. Les psaumes qui ne sont pas dans les bréviaires, etc., parce qu'ils sont un peu obscurs. Voilà. Bref, c'est une manière facile de mettre à disposition du peuple chrétien des choses qui, soi-disant, sont plus accessibles que d'autres. Ici, le livre des Hébreux s'adresse, bien sûr, aux Juifs qui, devenant chrétiens, voulaient retourner au judaïsme. Okay, c'est une tendance naturelle. Mais vous verrez que ça s'applique aussi à nous, chrétiens évangéliques, qui voulons retourner à la religion chrétienne. Il y a une différence entre la religion chrétienne et ce que nous voulons vivre, la relation avec Dieu. Donc cet épître, on ne sait pas d'ailleurs qui l'a écrit, hein, contrairement aux autres épîtres, où souvent, vous voyez, là j'ai sous les yeux l'épître à Philémon, Paul, on sait que c'est Paul qui l'a écrit. L'épître aux Hébreux, on ne sait pas. On l'attribue à Paul, mais beaucoup ne savent pas. Honnêtement, on ne sait pas. On devine par le phrasé, par le machin, bon, mais on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est Pierre, d'autres qui disent que c'est quelqu'un d'autre, enfin, peu importe. Elle est là, elle est inspirée de Dieu, mais il faut l'éclairer avec un éclairage qui permet une prophétique. C'est un contraste très important de cet épître parce que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, hein, qui était sous la loi, qui est devenu chrétien, était entré dans un nouveau régime, la nouvelle alliance, qui est le régime du christianisme et d'un peuple libre. Israël était un peuple qui était appelé, hein, par Abraham, Isaac, Jacob, etc., voilà, par les patriarches qui ensuite après sont devenus un peuple en Égypte, sous la direction de Moïse, ils sont sortis, mais ils sont liés à une généalogie très très claire en passant d'Abraham. Alors que le christianisme, il est ouvert à tous les hommes, quelles que soient les races, les couleurs, les religions, les cultures, etc. Donc, déjà, vous voyez, c'est un peuple qui n'est pas un peuple lié à une généalogie humaine, c'est un peuple qui est un peuple universel et spirituel avant tout, avec Christ, qui lui est venu et nous sommes dans la lignée de Christ. C'est pour ça que nous nous appelons chrétiens. Cette épître est une épître céleste. La lettre aux Éphésiens est une lettre qui, elle, est aussi céleste, mais elle parle surtout de l'union de l'Église avec Jésus, avec le Christ, le corps, la tête de l'Église, glorifié dans le ciel. Et cette épître, les Hébreux, elle établit le contraste entre Israël, le peuple juif, et le peuple chrétien, appelé à traverser le monde. Donc il s'agit du monde. Et atteindre le bout de la course, répondant à un appel qui vient du ciel, un appel céleste. Comme Israël avait répondu à un appel terrestre. Voyez-vous, Israël, Dieu a dit à Abraham, je te donnerai ce pays. Et il lui a montré le pays. Or nous, notre pays, il est où? Il est en France? Il est aux États-Unis? Il est en Nouvelle-Zélande? Il est où? Vous voyez, déjà, ça nous différencie du peuple juif. Nous, notre peuple, notre territoire, il est au ciel. Alors, voilà, ça c'est déjà un préambule sur l'épître aux Hébreux. Comme Israël avait répondu à l'appel terrestre pour conquérir le pays de Canaan. Eh bien, nous, nous devons conquérir, nous sommes des, notre royaume appartient au ciel. En attendant le retour de Jésus qui va revenir sur la terre. Mais ça, c'est l'histoire. On n'est pas encore dans cette histoire-là. On est encore dans l'histoire où on attend le millénium. On n'est pas dans le millénium, même si on a, on est dans, on a passé le cap des 2000. On est dans un autre millénium, mais ça, c'est autre chose. Le millénium de la Bible, c'est un règne de 1000 ans sous la direction de Jésus. Les Juifs se sont convertis, bien sûr, parce que Jésus s'est d'abord adressé aux Juifs. Jésus ne s'est pas adressé aux païens. Il a envoyé Paul, le premier apôtre, s'adresser aux païens, Pierre aussi, etc. Mais les chrétiens sont sortis du judaïsme. Les premiers chrétiens, tous les apôtres étaient juifs. On est d'accord. Et donc ces chrétiens, ces nouveaux chrétiens, sont amenés à détourner les yeux de la terre promise d'Israël pour les porter vers le ciel, vers les choses invisibles, là où Dieu, où Jésus est assis à la droite du Père. C'est l'œil de la foi qui peut contempler les choses invisibles, en jouir et en être rempli, alors même que nous traversons le désert de ce monde où nous rencontrons toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de maladies et toutes sortes de choses. En fait, ce sont les ronces et les épines qui sont à l'origine à cause du péché, qui sont à l'origine de ces choses. Et toutes ces choses qui s'opposent à notre marche, qui s'opposent à la marche du chrétien, parce que la Bible dit que le péché nous enveloppe si facilement. Mais nous remportons la victoire en faisant quoi? En fixant nos yeux où? Sur le pays que Dieu nous a promis? Sur Jésus. La seule manière de remporter les victoires, quelles qu'elles soient, et les difficultés, c'est de fixer les yeux sur Jésus, le Christ, sur celui qui est oint, le Messie, céleste. Céleste. Vous ne rencontrez jamais Jésus dans la rue, comme les apôtres le faisaient. C'était vrai avant sa mort. Mais maintenant, Jésus, bien sûr, il peut apparaître, et il le fait, en particulier aux musulmans, qui sont coincés dans leur culture, et Dieu, Jésus peut leur apparaître. Mais vous ne le rencontrerez pas en chair et en os, on est d'accord? Donc, notre vue, notre vision, c'est de fixer nos yeux sur Jésus. Et ça, c'est l'identité du chrétien. Si nous ne sommes pas dans cette perspective-là, eh bien, il faut réviser notre situation. C'est vraiment nos yeux fixés dans le ciel. Alors, je sais que c'est un petit peu un clou que j'enfonce, mais je le fais incidemment. Parce qu'actuellement, il y a un courant de chrétiens, en particulier charismatiques, qui veulent... Vous voyez, c'est le problème du pendule. Hein, quand on va trop loin dans un sens... Après, on va trop loin dans l'autre pour équilibrer. C'est humain, mais ce n'est pas biblique. La Bible nous donne une ligne, mais nous, on va d'un extrême à l'autre pour équilibrer, parce qu'on trouve qu'on est allé trop loin. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement chrétien, en particulier charismatique, qui veulent qu'on revienne à fixer nos yeux sur la terre avec le mandat de dominer la terre, qui est le mandat de Genèse 1:27, que certes, Dieu a donné à l'homme et à la femme. Le problème, c'est que Genèse 1:27, c'est avant Genèse 3. Il y a la chute. Donc, c'est un état de perfection qu'on retrouvera, certes, quand Jésus va revenir. Donc, quand Jésus va revenir dans le millénium, on pourra reprendre ce mandat, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il faut nous détourner des choses de la terre. Il faut simplement être témoin. Il ne faut pas penser que le chrétien peut dominer, avoir la victoire sur la terre, etc. C'est quelque chose qui est à venir. Il faut replacer dans le contexte du royaume du déjà pas encore, vous connaissez ça, hein, qui s'oppose au royaume du déjà aujourd'hui, hein, du, Kingdom Now. Et ce royaume, cette vision, hein, d'ailleurs, on va bientôt commencer en novembre les formations de George Ladd qui explique bien ça, c'est que l'histoire humaine avec Adam et Ève est comme ça, linéaire. Hein, et ici, Dieu parle. Hein, alors, je mets en pointillé, c'est l'ancienne alliance, hein, jusqu'au moment où Jésus vient sur la terre et termine sur la croix, c'est la rédemption. Et à partir de là, eh bien, il y a le royaume de Dieu qui a dit, le royaume de Dieu est en vous. C'est ça le message de Jésus. Le royaume de Dieu est en vous. Et le chrétien, quand il a le royaume de Dieu en lui, eh bien, ici, si nous sommes là, eh bien, nous avons un accès au ciel. Et nous pouvons être les deux en même temps. Alors bien sûr, il y a une tension là, hein, entre le monde et le ciel. Okay, une tension naturelle, hein, que vous avez remarqué tous, c'est pas un scoop. C'est cette tension, c'est qu'on voudrait, et d'ailleurs Paul le dit, j'aimerais bien avec le Seigneur, mais je reste avec vous, bien que c'est très très dur. Hein, imaginez Paul plusieurs fois lapidé, trouvé comme mort, etc. On comprend qu'il voulait plutôt aller avec le Seigneur. Mais par contre, à un moment donné, ça s'arrête. Ici, c'est le retour de Jésus. Et ensuite, après, Jésus va revenir pour... ça, c'est la terre. Et c'est le ciel. Ça, c'est la description que tous les évangéliques, jusque-là, ont toujours acceptée. Le canon, je dirais, de l'histoire de la rédemption. Donc, restons dans cette théologie, hein, qui est la théologie du Nouveau Testament, qui nous dit qu'un jour, eh bien, Jésus va revenir, les choses sont arrêtées, il y a un jugement, et ensuite, après, nous allons revenir sur la terre, c'est le millénium. L'apôtre décrit la position du Christ au début de l'Épître. Si vous prenez le chapitre 3 des Hébreux, verset 1er, l'apôtre écrit « C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste. » Notre appel, c'est le ciel. Alors, je ne vais pas prêcher contre ceux qui sont dans cette idée dominée sur la terre, qui disent oh « Oui, le ciel, le ciel, le ciel », parce qu'au Moyen-Âge, effectivement, l'Église ne parlait que du ciel. Mais pourquoi il ne parlait que du ciel? Parce que le système religieux, il veut dominer sur la terre. Il ne connaît pas le ciel, il connaît la terre. Donc du coup, il prêche aux gens en disant bah, « Vous êtes pauvres, vous êtes malades, vous êtes voilà, vous n'avez pas d'argent, d'ailleurs, vous donnez-moi l'argent aujourd'hui, j'en ai besoin. Et puis, regardez au ciel, vous aurez les récompenses au ciel. » Vous voyez, c'était ça le message. Bien sûr que Luther et les réformateurs ont réagi contre ça. Mais bon, ça, c'est le système humain, si vous voulez. Parce que c'est un système humain qui est mauvais, qu'on va aller dans l'autre sens. Et la Bible n'a jamais dit ça, sauf qu'elle dit que nous devons regarder au ciel, c'est tout. C'est biblique, c'est pas par réaction qu'il faut le faire aujourd'hui. Ça a toujours été le message évangélique. Donc, il dit, c'est pourquoi, frère saint, qui participait à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. C'est qui l'apôtre ? Et c'est qui le souverain sacrificateur? Jésus. Dites-le, Jésus. Oui, Jésus est apôtre, vous saviez? Voilà, il est envoyé. L'apôtre, c'est celui qui est envoyé. Il est envoyé par son Père. Voilà, donc, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Donc, vous voyez là, l'épître aux Romains est campé dans cette réalité que c'est Jésus, et c'est pourquoi nous sommes des frères saints qui participons à un appel céleste. Il établit donc le caractère de l'épître. Le caractère de l'épître, ça parle du ciel. C'est-à-dire, le ciel, ici, on est dans la réalité. Réalité, et ici on était dans l'ombre. Vous voyez, il y a une césure dans le temps, dans l'histoire de l'humanité, où l'ancienne alliance, j'aime pas le mot testament, hein, mais l'ancienne alliance, qui est l'alliance de Moïse, hein, parce qu'Abraham il était appelé, mais Moïse a établi le peuple au Sinaï, hein, c'était la constitution du peuple d'Israël. Donc sur la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Donc là, on est dans l'ombre et là, on est dans la réalité. La différence entre les Hébreux, les Juifs, religion juive, et ici, c'est qu'on est passé de l'ombre à la réalité. Alors, vous êtes dans une réalité. La réalité historique que Jésus a changé le cours de l'événement et a amené la réalité de l'ombre qui a été annoncée. Enfin, pendant ce temps, c'était l'annonce de la réalité, mais ce n'était pas la réalité. Et ça, c'est l'esprit de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, l'apôtre veut essayer de montrer aux Juifs qu'en s'attachant, hein, parce que c'était les premiers chrétiens, c'est vrai, c'était ici, hein, nous on est là, eux ils étaient là. Bon, il voulait leur montrer qu'en revenant ici, vous voyez, les Juifs qui étaient là, qui étaient chrétiens, en revenant ici et en rapportant ça là, ça veut dire qu'ils ramenaient de l'ombre dans la lumière, dans la réalité. Vous voyez l'idée? Ça, c'est toute l'idée de l'Épître aux Hébreux. Il a montré que c'est une folie de vouloir ramener dans le vécu aujourd'hui en tant que chrétien, de ramener des choses anciennes qui étaient faites pour un temps avant que Jésus arrive et qu'il faut laisser tomber ça. Mais néanmoins, il y a des réalités. Enfin, il y a des choses qui peuvent nous aider à comprendre la réalité, vous voyez. L'Ancien Testament, ça nous aide. Alors, l'Église catholique, comme je vous l'ai dit, ils ont dit, bon, lisez pas ça, c'est pour les Juifs, ça, nous, c'est pour ça, ok. Mais ça aide quand même, en dehors du fait que c'est la parole de Dieu. Mais voilà, c'est vrai que le Lévitique, je ne lis pas très souvent. Hein. Bon, il y a des livres quand même un peu difficiles à lire. Mais c'est vrai que c'était l'ombre des choses à venir. Le caractère de l'Épître, c'est de nous tourner vers le ciel en attendant que Jésus revienne et qu'il établira à nouveau les choses sur la terre. Pourquoi ? Parce que seul Jésus peut exercer le pouvoir sans corruption. Aujourd'hui, aucun être humain, le plus chrétien possible, si vous voulez, si ça existait, eh bien, il sera forcément corrompable. Il disait un jour à Jean-Paul Englert, il dit non, le fils de Billy Graham, il ne sera pas corrompu. Je dis, ah bon, pourquoi le fils de Billy Graham? Voilà. Non, n'importe quel être humain, il sera corrompu d'une manière ou d'une autre parce qu'en nous, il y a le péché. Et le péché, forcément, le pouvoir et tout ça, ça a une attraction terrible sur le pouvoir. Paul dit, au chapitre 2, verset 9, il dit, nous voyons Jésus. Voilà, celui qui a été fait pour peu de temps inférieur aux anges, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Nous contemplons Jésus. Voyez-vous, ça c'est aussi ce que nous faisons dans la louange, l'adoration, dans le culte ou dans notre culte personnel. Nous contemplons Jésus. Jésus, c'est une réalité, sauf qu'elle est invisible, mais une réalité spirituelle. C'est le mot capital qui revient dans l'Épître aux Hébreux. Et vous avez dans chapitre 12, verset 2, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Voyez-vous, nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Vous êtes d'accord? Et plus nous aurons la foi, plus nous verrons des miracles, plus nous verrons la puissance de Dieu. Amen. C'est par la foi. Mais la foi vient de ce que nous fixons nos yeux sur Jésus. Oui. Plus nous fixons nos yeux sur Jésus, qui est dans le ciel, hein, je le répète, je suis un peu lourd, mais c'est important, il n'est pas sur la terre, plus nous fixons nos yeux sur ces réalités invisibles, sur Jésus, bien plus notre foi va grandir. Amen. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui disent « Ah, Bénin, il y a ceci, cela, bon, je suis d'accord. C'est Fénaï, d'ailleurs, si on confesse c'est Fénaï, ils savent que... » Alors, dit surtout, écoutez pas Bénin dans ses doctrines, parce qu'il est à côté de ses pompes. Mais, voilà, il ne devrait pas faire ce que pourquoi il n'est pas appelé. Mais dans ces campagnes, en fait, ils ont une heure et demie de louange à Jésus. il a un chanteur extraordinaire, il a des chorales, il a des machins, bon, etc., de louange. Et simplement, la louange, c'est Jésus qui guérit, c'est pas Bénigne, vous voyez. Il faut bien détourner nos yeux de l'homme, quel qu'il soit, pour nous fixer sur Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Donc, c'est important que nous sachions que cette épître, en particulier, elle a cette vocation de nous amener à regarder notre appel céleste. Il y a d'autres épîtres qui parlent d'autres choses, hein, des choses pratiques, etc. Mais là, les Hébreux, c'est ça. Ces Hébreux, donc ces Juifs sortis du judaïsme, voilà, ils le voient constamment. Et tout ce qu'ils avaient à faire en tant que peuple d'Israël, c'était les ombres dont ils avaient maintenant la réalité. Le tabernacle, ça veut dire quoi le tabernacle? C'est quoi? Parce qu'on utilise des mots, hein, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. L'étymologie du mot tabernacle. Pardon? Non, tabernacle, ça vient de tabernaclé. Hein, et c'est quoi tabernaclé? Oui. Habiter, oui. C'est-à-dire, tabernacler, c'est rester. Là, toi, tu tabernacles, là. Voilà. Tu tabernacles avec les autres. Voilà. Tabernacler, ça veut dire venir auprès de quelqu'un, venir, voilà, comme Jésus est venu tabernacler avec nous. Allô? Donc, oui, le tabernacle, alors, dites surtout pas ça, nous, quand on est allé au Canada, on a dit ça, waouh, c'est une injure la plus grossière possible. Voilà. Enfin bref, ça c'est des cultures. Il faut se méfier des cultures. Hein. Je ne sais pas, on fait des grosses bêtises. Tabernacle. Le tabernacle, c'est la présence de Dieu parmi le peuple. Donc le premier tabernacle qui était, c'était lequel? C'est celui de Moïse. Moïse, il a installé le tabernacle sur l'ordre de Dieu. Où ça? Au milieu du peuple, dans le camp, en Israël. On verra, il y a des détails. Il faut qu'on voit plus. Parce que le point clé, c'est le camp. Mais on verra ça tout à l'heure. Il est venu, Dieu lui a dit, je veux bien, parce que vous êtes mon peuple, je veux bien être au milieu de vous, je veux tabernacler au milieu de vous, dans le tabernacle. Et ce tabernacle avait une construction particulière, à tel point que Dieu a demandé à Moïse que tous les détails du tabernacle soit respecté pour être conforme à ce qui allait venir. Non pas parce que voilà, la frange du sacrificateur devait avoir des clochettes, etc. Bon. Mais ça renvoie à des réalités à venir. Donc, il demandait à Moïse d'être très conforme à ce qu'il voyait, parce que chaque élément renvoyait une réalité. Quels sont ceux qui ont vu l'enseignement? Alors, Michel n'est pas là, elle fait office de mémoire. Celui qui présente le tabernacle, j'ai le nom sur ma langue, il avait une grande maquette qu'il a fait chez lui pendant des années. Et quand il venait pour enseigner, il avait une semaine d'enseignement et il présentait tous les trucs du tabernacle. Ça ne te dit rien, Hélène? Comment il s'appelle? Vous voyez qui je veux dire? On l'a fait venir deux fois ici à l'église. Bon. Enfin, bref. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le tabernacle expliqué dans le détail? Non? Bon, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que je crois qu'il est mort. Hein, voilà. Bon, à l'époque, dans les années 70, on le faisait venir dans toutes les églises. C'était super, il était passionnant. Il connaissait tous les détails par cœur du tabernacle et vous l'expliquait avec, bien sûr, la réalité en Christ. Voilà, c'était absolument génial. Bon, peut-être qu'on pourra le refaire, je vais voir si je peux, si ça vous intéresse. Bon, le tabernacle. Dieu veut tabernacler auprès des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Pardon? Ben, c'est lui le tabernacle. Dieu est venu en Jésus tabernacler auprès des hommes. C'est Jésus le tabernacle. Hello? Vous me suivez? Ça, c'est la réalité. L'ombre, c'était la tente, ensuite après, c'est devenu le temple. Où Dieu est venu, mais aujourd'hui, au moment de Jésus, il est venu, et aujourd'hui, il est où le tabernacle? Ben, c'est nous. Dis à ton voisin, c'est toi, c'est moi. C'est le tabernacle, c'est toi, c'est moi. Hein? Oui? Cherchez pas le tabernacle à Jérusalem, Vous savez, il y en a comme Indiana Jones, ils cherchent les trucs du tabernacle, ils cherchent encore le tabernacle, l'arche d'alliance et tout ça, voilà. Et même Hitler a cherché tous les objets, etc. Parce que, oui, parce qu'il y avait une puissance occulte derrière, et il a cherché tous les objets, la lance et tout ça, et il s'en servait pour faire de l'occultisme. Ne cherchez pas tout ça, le tabernacle c'est vous, c'est toi, c'est moi, c'est Dieu veut vivre en moi, Christ en moi. L'espérance de la vie, de la gloire. Donc, Jésus est l'apôtre et le sacrificateur. Amen. Il est le sacrifice, il est la victime, il est l'autel, il est tout. Et Christ aujourd'hui est dans le ciel, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. En reportant leurs yeux, donc les yeux de ces juifs, en arrière sur toute chose, ils les voyaient maintenant comme des ombres d'une personne et d'une œuvre dont ils avaient maintenant atteint la réalité en Christ. Vous voyez, le juif qui était là, il pouvait regarder en arrière et il pouvait comprendre, beaucoup plus que nous, tout ce que de l'ombre devenait réalité. C'est pourquoi, quand à la fin des temps, on arrive à la fin des temps, quand les juifs vont se convertir, ils seront des témoins bien plus puissants que nous. Parce qu'ils sont habités de cette compréhension des ombres, mais qui vont devenir réalité. Ils ont la puissance de les annoncer au monde. Amen. Il ne faut pas que nos pensées et nos cœurs soient portés sur autre chose que lui. Ça, c'est le message des Hébreux. C'est notre sécurité, une sécurité spirituelle, sécurité personnelle. Dieu ne veut pas des cœurs partagés. Vous connaissez les cœurs partagés, hein? C'est Jacques qui en parle. Si vous avez un cœur, hein, si vous avez un cœur, okay, qui d'un côté est tourné vers Jésus et d'autre côté qui est tourné vers le monde, eh bien, c'est un cœur partagé. Mais sachez que tous, on a ce problème. Hein? Je ne le dis pas en dénonçant qui que ce soit. Notre problème, en tant que chrétien, c'est ça. Cœur partagé. Et parce que nous avons un cœur partagé, alors les degrés sont différents, hein, de pourcentage, hein, mais le monde occupe une partie de nos cœurs. Alors toute la problématique, c'est de dire, pour régler ça, et on est en 2017, hein, 2017, il y a plus de 2000 ans qui sont passés, et des chrétiens nous ont précédés, hein. Et ils se sont posés les mêmes questions que nous, hein, parce qu'aujourd'hui on a des iPhones, qu'on est plus intelligent. Donc les mêmes questions reviennent. Et ils se sont dit comment faire pour ne plus être influencé par le monde, pour ne pas avoir de cœur partagé. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et ça, c'est les trois premiers siècles. Hein, ils ont trouvé une astuce. Les moines. Mais oui, les moines, ouais. Mais au départ, c'était, ça s'appelle les pères du désert. Les pères du désert, ils étaient en Égypte, maintenant c'est les Coptes, hein, et ces chrétiens, ils étaient dégoûtés, les deux, trois premiers siècles, hein, 200, 300 ans, après Jésus-Christ, ils étaient dégoûtés de la corruption du monde. Hein, vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de corruption, mais à l'époque, ils étaient dégoûtés, en disant, on ne peut pas vivre la vie chrétienne dans les villages, dans les villes, dans le monde, etc. Il faut qu'on cherche Dieu pour ne pas avoir le cœur partagé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé les premiers monastères, mais alors c'était monastères particuliers, c'est-à-dire qu'ils se retiraient quelques jours de marche, si vous voulez, en Égypte, et ils se faisaient une hutte, et ils étaient seuls, parce qu'en plus, si vous êtes à plusieurs dans un monastère, vous risquez encore de vous influencer. Vous voyez. Donc, ils ont vraiment les choses proprement, tout seuls. Et ils interdisaient à quelqu'un de mettre sa hutte à un jet de pierre. Il fallait que, au moins un jet de pierre, il soit plus loin, pas à côté, plus loin. Oui. Donc ça, c'est les premiers monastères. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les monastères de cette époque-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont déduit? Alors, en général, une fois par semaine, le dimanche, ils venaient dans les villes, ils assistaient au culte. Et ils s'achetaient une grosse miche de pain, une énorme, pour durer la semaine. Donc ils prenaient du pain et de l'eau, plutôt. Donc ils repartaient dans leur petite cahute et ils vivaient en cherchant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils disent, hein, si vous, voilà, on a tous les témoignages, hein, il y a des écrits qui restent de cette époque-là. Ils disent, bah, en fait, le péché était en nous. Ils ont découvert que même s'ils se retiraient tout ça, il y avait du péché, il y avait de la jalousie, il y avait, ah bah tiens, lui, il est mieux loti que moi, etc. Vous voyez, donc même si vous faites ça, vous êtes à nouveau poursuivi par votre propre nature. Donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, si ce n'est que d'accepter cette condition, tant que nous vivons sur la terre, de chercher à avoir nos regards tournés vers Jésus le plus possible, mais le monde aura toujours une influence. Mais il faudra qu'elle soit de moins en moins évidente. Mais en même temps, ce n'est pas une recherche de la chair. C'est là qu'il faut marcher par l'esprit. Il faut compter sur la grâce du Seigneur. Amen. Notre sécurité est en Jésus. Et Dieu ne veut pas des cœurs partagés. Et s'ils le sont, eh bien, nous devons bien demander au Seigneur de nous aider. Et plus le monde est présent dans nos vies, plus nous avons des problèmes. Un autre grand trait de cet épître, c'est le gouvernement de Dieu. Donc le gouvernement de Dieu. Voilà, ça c'est le deuxième grand. Donc premier, c'est regarder au Seigneur, le gouvernement. Dieu gouverne. Mais sur quoi, sur qui, comment, etc. Est-ce qu'il gouverne sur nous? Dieu a voulu gouverner sur Israël. Vous êtes d'accord? Et Dieu leur a dit, eh bien, je vous libère, j'ai entendu vos cris. Ils étaient 450 ans en Égypte. La dernière centaine, ça s'est mal passé, avec le revirement du Pharaon. Et donc, ils étaient esclaves. Et Dieu a entendu leurs cris. Ils ont dit, non, on veut être libre, etc., pour adorer Dieu. Dieu a dit, ok, il a répondu. Et regardez ce qui s'est passé. Dieu les libère de l'Égypte. Il fait des miracles puissants contre Pharaon. Puissants. Depuis, il n'y en a jamais eu d'aussi puissant, à tel point que tout le judaïsme, toute la liturgie judaïque repose sur la Pâque. Passage de la mer Rouge. Ils arrivent dans le désert. Dieu les envoie au Sinaï, Mont Sinaï, où Moïse est appelé à monter pour recevoir les tables de la loi. Et qu'est-ce qui se passe pendant les 40 jours où Moïse est en haut? Qu'est-ce qui se passe? Alors? Voilà, ils ont fait un veau d'or. Vous voyez la vitesse à laquelle la chair nous rattrape, la vitesse à laquelle ça marche. En 40 jours, seulement. Simplement parce qu'ils n'avaient pas leur leader qui allait de l'avant. Bon, pendant que Moïse était là, ça allait bien. Hein, Moïse tirait le troupeau. Mais quand ils étaient tout seuls, livrés à eux-mêmes, livrés à leur cœur, livrés à leur passion, livrés à leur mémoire, hein, oh, c'était bien en Égypte, on avait des oignons, on avait des carottes, on avait. Ah, ça sentait bon, la cuisine égyptienne, voilà, etc. On avait, je sais pas, des fromages, enfin, c'était très bon, du bon vin et tout, voilà. Vous voyez, le monde, il est là, bon. Ah ben, 40 jours, on n'a plus ce leader charismatique, on est livré à son propre cœur, eh bien, on retourne aux idoles. Maman. C'est le principe de l'argent qui prévaut partout. Maman. Jésus a dénoncé Maman. Faites attention à Maman. Aujourd'hui, les nouveaux temples, ce sont nos supermarchés. Vous voyez, ils vont ouvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis dimanche, plus rien, parce que tout le monde veut consommer. Et en fait, on est à la traîne, hein. On est à la traîne des Américains, parce que quand il y avait, c'est pas Joe Joy, mais c'est le gars qui avait conduit les gens de Foursquare, là. C'était un nom, enfin, bref. Il faisait un doctorat en théologie, et je lui ai dit, moi j'aime bien les gens qui font un peu d'études, en disant, écoute, dis-moi ce que tu as dans la tronche, là, qu'est-ce que tu as appris, tout. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas qu'aux États-Unis, quand je conduis en Californie, je vois, je dis Saint-Michel, je vois des hypermarchés, des supermarchés qui s'enfilent les uns les autres. Je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent vendre? Parce qu'il y en a un qui vend, mais voilà, comment est-ce qu'ils peuvent vivre de ça? Les malls, les machins, etc. Bon. a dit, mais écoute, aux États-Unis, il y a un principe, c'est que si tu veux être un bon citoyen, il faut consommer. Pour être un bon citoyen américain, tu es consommateur. Donc vous voyez, on ramène les êtres humains à des consommateurs. Si tu consommes, tu es un bon citoyen. Vous voyez, on ne demande pas d'avoir une bonne morale, ça. Je ne fais pas appel à l'actualité, mais vous la connaissez comme moi. Non, c'est consommateur. Si tu consommes, tu vas pouvoir rentrer de l'argent à ceux qui dirigent et qui ont ton argent et qui peuvent faire ce que tu veux avec. Vous voyez, il faut bien comprendre les choses. Les choses n'ont pas changé. À l'époque de Moïse, il pensait à la consommation, qu'il y avait les bonnes nourritures en Égypte, etc. Donc ce qui fait quoi? Leur cœur n'était pas du tout attiré par Dieu, qui est une réalité invisible, qui effectivement s'est présentée sur le mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Israélites? Quand ils ont vu la montagne trembler, fumer, machin, etc., ils ont eu peur. Ouais. Et ils n'ont pas eu envie de connaître ce Dieu qui est un Dieu saint et que Moïse a rencontré. Ils ont eu peur. Et ils sont retournés, eh bien, simplement leur désir de consommer. Métro, boulot, dodo. En mai 68, moi j'étais là et j'ai vécu la révolution mai 68, eh bien, les gens ont dit, maintenant on a la marre, on veut consommer. Tout consommer, marijuana, tout, voilà, donc on a eu la liberté de tout, donc on veut plus que personne nous interdise quoi que ce soit, on veut faire ce qu'on veut, on veut consommer, vous voyez, c'est la consommation qui a prévalu aux valeurs éternelles, à la recherche de sens chacune de vie. Méfions-nous, nous avons tous aujourd'hui le même fond au même, et nous pouvons retourner aux nos idoles, et les idoles, il s'en crée des centaines par jour. Des centaines par jour d'idoles auxquelles l'ennemi veut nous attirer. Donc le grand trait de cet épître, c'est qu'Israël devait aller vers un territoire de Canaan, et nous devons aller vers un autre territoire, mais qui est au ciel. Amen. On reviendra, hein. On s'occupera de la terre, sachant qu'aujourd'hui, on peut être témoin dans ce monde. Pour qu'on puisse amener des personnes, le plus grand nombre de personnes. Mais plus on sera des modèles, plus on va les attirer. Plus par notre attitude que par nos paroles. Amen. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre aux femmes qui voulaient attirer leur mari en disant ben, sois des modèles, sois un modèle pour ton mari. Et tu l'attireras par qui tu es, par ton modèle. C'est pourquoi cet épître est rempli du royaume, de la cité du trône de Dieu. Chapitre 1, verset 3, chapitre 2, chapitre 4, chapitre 6, je ne vous donne pas les versets, chapitre 7, 8, 10, 11, 12, tout ça, ça parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Mais seulement, ce règne, c'est le trône de la grâce. C'est le trône de la grâce. Alors, je commence un tout petit peu à effleurer la question du tabernacle, mais le tabernacle, donc c'est la partie dans la tente d'assignation, c'est la partie où il y avait un voile, d'accord, le voile. Là, il y avait la première partie du sanctuaire. Là, la première sanctuaire, ça veut dire sacré. Donc, première partie du sanctuaire, donc le tabernacle, et la deuxième partie où personne ne pouvait entrer parce qu'il mourait immédiatement, parce qu'il y avait la présence de Dieu, hein, qui est manifesté par une colonne de feu, une colonne de nuée le jour. Et ici, il y avait un coffre, simplement un coffre avec des barres, hein, qui permettaient de le porter, hein, voilà, qui était posé. Et sur ce coffre, il y avait quoi au-dessus? Sans rentrer dans le détail, il y avait quoi au-dessus? Oui, et ils étaient quoi sur les chérubins? Ils étaient quoi? Hein? C'est quoi ça? Ce que j'ai mis en rouge, c'est quoi? C'est important ça. Avant les chérubins. Les chérubins, c'est après. Le propitiatoire. Ça vient de quel mot encore un peu aberrant pour comprendre? De propice. Propice. En anglais, c'est des gens pratiques, hein, leur langue ne vient pas du latin ni du grec. ces anglo-saxons, ils appellent ça « the mercy seat », le « mercy seat », le siège de la miséricorde. Vous voyez ? C'est le siège de la miséricorde. Ici, c'est le, chez nous en France, c'est le propitiatoire. Chez eux, c'est le siège de la grâce, si vous voulez. Hein, miséricorde, grâce, le siège de la grâce. Ouais, ça parle un peu mieux. Propitiatoire. Bon, on le retrouve, hein, il faut chercher les racines de propitiatoire. Propice à Dieu. Propice, nous sommes reçus par Dieu dans sa présence. Parce que là, si quelqu'un rentre qui n'est pas propice à Dieu, il dégage. C'est ce qui s'est passé avec les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, ils avaient toujours une corde au pied, et quand ils rentraient, la corde est traînée dehors, parce qu'il ne fallait pas qu'ils l'emmènent, hein, parce que plus personne ne pouvait le ramener. Hein, donc il mourait, et ce serait son tombeau. Donc, parce que si quelqu'un rentrait, il tombait comme des mouches. Quoi, hein, c'est, oui, non, mais c'est la présence de Dieu. Le péché ne peut pas être... Vous voyez, c'est l'ombre des choses. Hein. C'est l'ombre des choses. Mais eux, ils l'ont vécu en ombre. Mais on ne peut pas rentrer en présence de Dieu en étant dans le péché. Vous êtes d'accord ? C'est pas possible. Dieu, il est saint. Et nous pouvons entrer que dans la sainteté, dans la présence en tant que saint. C'est pour ça que nous sommes justifiés en Jésus-Christ par son sang. Et donc, il rentrait avec une corde, hein, ici, qui traînait, là. Voilà. Et ça arrivait assez souvent, hein, quand il n'était pas préparé, il mourait, et puis il le tirait, il l'enterrait. Et puis il nommait un nouveau souverain sacrificateur pour le remplacer. C'était pas de la rigolade. Hein. Ok. Comme ça que ce... lisez votre Bible, hein, vous allez voir, c'est... tout ça c'est expliqué. Donc ici, c'est le siège où on devait recevoir... le fait d'être propice à être reçu dans la présence de Dieu. Ça, c'était le rôle du souverain sacrificateur. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus s'est présenté devant Dieu et Dieu l'a reçu. Il est descendu aux enfers, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Le seul souverain sacrificateur qui a reçu la faveur de Dieu. Recevoir la faveur de Dieu. Okay. Et qu'est-ce qui se passait sur ce propitiateur ? Qu'est-ce qu'il faisait le souverain sacrificateur, là, quand il rentrait avec quoi ? Le sang du sacrifice qui était fait à l'extérieur, d'accord ? Dans le parvis. Il rentrait avec ce sang, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il le déversait. Bon, alors il y avait tout un rituel, hein, où il fallait qu'il l'aspergeait, voilà, il l'aspergeait avec des branches, etc. Enfin bref. Mais il versait en gros le sang sur ce couvercle, si vous voulez, un couvercle. Okay. Alors, comme je sais que vous avez parlé de chérubins, on va les dessiner. Hein, mais bon, voilà, donc il y a deux chérubins qui sont là et qui gardent la présence de Dieu. Ça renvoie à ce qui se passe dans Genèse où Dieu a placé des chérubins pour pas qu'on retourne à l'arbre de vie. Mais ça, c'est autre chose. Je veux rester à l'aspect du propitiatoire. Ici, le sang permet, qui était des animaux, permet d'être propice à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passait avec les animaux ? Parce que c'est le sang. Les animaux, ils sont restés dehors, morts. Qu'est-ce qu'on devait faire ? Quel était le rôle de la liturgie juive, du culte juif ? Pardon ? J'entends pas, excusez-moi, je suis... Oui, mais alors... Oui, brûler la graisse. Est-ce que c'était vrai avec tous les sacrifices ?
Non.
Non. Voilà, voilà. Bon, alors là, relisez le Lévitique. Hein. Je suis pas spécialiste du Lévitique et je m'engagerai pas là-dedans. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais en gros, il y a deux catégories. Hein. Une fois qu'on a dit que c'est compliqué, on va simplifier les choses. Voilà, donc là, on est un peu simpliste, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en gros, il y avait deux types de sacrifices. Il y a les sacrifices de reconnaissance. Si vous aviez un enfant qui naissait, vous êtes reconnaissant, vous apportiez un sacrifice. Il y avait tout un tas de sacrifices qui étaient pour être reconnaissant, comme ici, quand vous apportez la dîme, etc. Et là, quand les sacrifices étaient faits donc à l'extérieur, Après, il y avait un festin et on mangeait les animaux. Et on les mangeait. C'était, vous voyez, l'idée de Dieu, c'était on se réjouit dans le sacrifice. Et la fête en Israël, Colette en sait mieux que moi, ils savent se réjouir. Hein, voilà. Et les fêtes, les danses et tout ça sont présentes. Mais quand il y avait un sacrifice d'expiation, et particulièrement Yom Kippour, c'est quoi ? C'est le jour du grand pardon. Du grand pardon. C'est-à-dire, c'est le jour, une fois par an, donc c'est début octobre, hein, fin septembre, début octobre, ça dépend de la lune. Ce jour-là, eh bien, le sacrifice est fait pour tout le peuple. Parce que les autres sacrifices, c'était chacun qui amenait personnellement son sacrifice. Pour le peuple, une fois par an, il y avait un sacrifice qui était fait, ça s'appelle le sacrifice d'expiation. Et ensuite, après, il y avait toute une liturgie où le sacrificateur sortait et demandait le pardon pour tout le peuple, etc. Ces animaux-là, ils étaient brûlés. Ils brûlaient où ? Parce que là, on est dans l'ombre, mais même dans l'ombre des choses à venir, chaque élément a sa précision et a une valeur prophétique et symbolique. Ils étaient brûlés où ? Hors du camp. Hors du camp. Alors, vous avez le camp ici. Hein, alors, il était très organisé, le camp. Vous avez dans vos bibles Thompson derrière, vous avez les tribus qui étaient un peu comme les camps romains. On ne mélangeait pas les tribus. Il y avait 12 tribus, ils étaient là. Voilà. Et à chaque fois, ils se remettaient dans l'ordre. Judas, machin, Issachar, etc. Donc, il y avait toute une organisation, parce qu'il était milliers et des milliers, hein, les juifs, en sortant. Et ça, c'était le camp. Et la tente d'assignation, hein, qui était une tente au départ, hein, c'est devenu un temple au temps de Salomon, mais sinon c'était une tente. Cette tente, parfois elle était dehors, parfois elle était dedans. Parfois... Mais par contre, le camp, c'était ça. C'était la circonscription géographique du peuple qui était là. Eh bien, les sacrifices qui provenaient de ça, ils devaient être brûlés hors du camp. Et Jésus, il a été crucifié où ? Hors de Jérusalem. Chaque élément a sa signification. On verra un petit peu plus tard ce que c'est que ce camp. Parce que moi, je ne savais pas non plus, j'étais comme vous, c'est quoi le camp ? D'une part, bon, je savais que c'était ce camp-là, mais aujourd'hui, spirituellement, ça veut dire quoi le camp ? Aujourd'hui, il y a toujours un camp. Mais quelle est la compréhension du camp aujourd'hui ? C'est ça qu'il faut, la réalité, il faut comprendre la réalité. Non. Mais je vous le dirai tout à l'heure. Dieu règne sur son trône. Et c'est en grâce pour nous, à cause de Jésus. Grâce à Jésus, nous pouvons avoir la faveur de Dieu. Sans Jésus, nous serions dans l'attitude des Hébreux, des Juifs. Comment cette épître est remplie, donc cette épître est remplie du trône. Et il est rempli de la grâce. C'est le trône et la grâce. Vous êtes venus à la montagne de Sion. Et c'est là que Dieu, comme nous l'avons vu plus haut, a établi la royauté dans la personne de David, qui est un type de Christ, en puissance et en grâce. Jésus a été établi sur le trône de David, qui là aussi était l'ombre des choses à venir. C'est là que règne la grâce et la justice. Dans le royaume de Dieu, tout est justice. Il n'y a pas d'injustice. Nous sommes venus à la montagne de Dieu où règne en grâce, tout est grâce pour nous. Et dans chapitre 12, verset 28, il est dit « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec pitié et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Il est bon que le cœur soit fermé par la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Grâce pour être sauvés, grâce pour marcher avec le Seigneur de gloire en gloire. Nous devons servir le Seigneur dans la grâce. C'est pourquoi l'Église doit être remplie de grâce. Et je l'expliquerai encore cet après-midi lors de la formation. En effet, rien n'affermit le cœur si ce n'est la grâce. Sinon, il devient dur. Sinon, même en tant que chrétien, nous pouvons devenir des chrétiens durs, autoritaires, des chrétiens de jugement, voyez. Alors que Dieu est rempli de grâce, et il veut que le chrétien soit rempli de sa grâce. Les chrétiens non affranchis, qui restent esclaves, sont toujours malheureux, sont toujours mécontents d'eux-mêmes, ce qui est naturel. Ils pensent alors atteindre ce qui leur manque en se plaçant sous des obligations de la loi. Vous voyez, c'est plus facile de dire « Ah ben, moi je ne veux pas être changé, personne ne me touche, moi je fais ce que je veux, ah, etc. » Et ensuite après, bien sûr comme il y a un sentiment de culpabilité au fond, hein, bon, parce que là, c'est les psychiatres qui pourraient en parler, parce qu'ils regardent dans le fond. Mais dans le fond, il y a une culpabilité chez ces chrétiens-là. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la loi pour se justifier. Et du coup, ils rentrent dans un processus, un, de jugement des autres, et un, de jugement d'eux-mêmes. Et la culpabilité s'ensuit. Ce qui affermit le cœur devant Dieu, c'est la grâce. Et ce serait de connaître la grâce au Seigneur. Et là, on peut tirer le chapeau à la réforme, hein, Luther, Calvin, etc., qui ont dit la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. C'est un peu le motto de la réforme, un des mottos, hein, en dehors d'autres. Et c'est vrai, c'est vrai. Souvenez-vous de vos conducteurs. On a lu, donc on n'est pas allé plus loin que le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu en considérant l'issue de leur conduite et imitez leur foi. Alors je suis désolé, je m'arrête parce qu'il est 15, mais j'ai fait que l'introduction. Je n'ai même pas commencé le premier verset. Donc je suis désolé. Voilà. Voilà. Mais bon, je me suis laissé conduire par le Seigneur. Donc vous aurez la suite la prochaine fois. Je veux quand même vous donner une piste, comme ça vous pouvez méditer là-dessus. Le camp, on verra le camp, CAMP, hein. Le camp aujourd'hui, c'est pas le camp d'Israël, c'est le système religieux. Si nous sommes dans un système religieux aujourd'hui, dans une religion, un système religieux, nous sommes dans le camp. Allez-y. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, on voit cette femme prostituée qui représente le système religieux. Et la femme prostituée, dans l'Apocalypse, avec les étoiles, etc., ben c'est ce qui arrive en ce moment, où le système religieux, en particulier avec le nouvel âge du Verseau, qui est alimenté, qui alimente les systèmes religieux, eh bien, il se confrontera à la venue de Jésus. Il y aura une confrontation absolument colossale. Alors ne restons pas dans le camp. Sortons des systèmes religieux et rentrons dans la réalité de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, dans la réalité d'une relation authentique avec lui qui dépasse les systèmes religieux, qui n'a rien à voir avec le système religieux. Il faut sortir du camp dans lequel nous sommes emprisonnés par les lois, par les règlements, par les yaka, fauconf, et toutes ces choses-là. Nous devons rentrer dans la réalité de Christ qui est une relation personnelle avec nous. Amen. Seigneur, nous te prions que ta parole puisse faire vraiment la lumière dans nos cœurs et que, Seigneur, nous ne soyons pas dépendants du système religieux, quel qu'il soit. Seigneur, tes plus grands ennemis, c'étaient les chefs religieux, alors que tu n'avais beaucoup moins de problèmes avec le monde. Mais là, tu les as traités tous les noms, parce que, Seigneur, c'est une horreur. Et nous voulons échapper à cette horreur aujourd'hui, et sortir hors du camp où, Seigneur, nous pouvons partager l'opprobre qui était la tienne et que nous n'ayons pas peur de l'opprobre, ce qui fait partie du disciple. Et nous te demandons ta grâce pour cela, au nom de Jésus. Amen.